Monde, Laurence Alloa, Tegui Mfatroré. Musique du Monde sur RFI.
Bienvenue dans Musique du Monde qui reçoit un photographe aujourd'hui à qui nous avons demandé de faire la programmation musicale de cette émission. Alors qui et pourquoi ? Il s'appelle Reza Degati et avec son frère Manoucha, il vient de publier « Iran, rêve et dérive », un livre de photos qui couvre la période 1978-1985 où les deux photojournalistes ont vécu et immortalisé la révolution iranienne de 79 avec la chute du Shah d'Iran et l'accession au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. 40 années se sont écoulées, les frères se sont exilés, ils ne sont pas retournés en Iran depuis 38 ans pour Reza, 34 pour Manoucha. Ce livre de photos sort au moment où l'Iran a vécu plusieurs jours de contestation déclenchée par la hausse du prix du carburant, accompagnée de coupures d'accès à Internet et de répressions sanglantes. Si les communications reviennent peu à peu à la normale, Amnesty International parle de 143 morts. « Everywhere we looked was burning », »,« Partout on regardait, ça brûlait », chante l'artiste tunisienne Emel Matlouti, et elle a raison. Hong Kong, Chili, Liban, Iran, et la liste est non exhaustive. C'est dans ce contexte que nous recevons Reza, correspondant de guerre multiprimé, engagé, membre du National Geographic. Il a fondé en 2001 l'ONG AINA, qui avait ouvert un centre à Kaboul, pour former la population afghane, notamment les femmes, aux techniques de la communication et à la photographie. C'est lui qui avait fait le fameux portrait du commandant Massoud qui a fait le tour du monde, un peu comme la photo de Che Guevara d'Alberto Korda. Et c'est avec la musique du pianiste iranien Arshid Azarin que s'ouvre cet entretien avec le titre « Marabé Bouche » chanté par Susan Dehim. Bonsoir.
Marabé Bouche, Marabé Bouche, Paray Akharin Bar. خدا تو را نگه دار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته منم به چست جوی سرنوشت گذشت از توفان ها به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها شب سیاه سفر کنم ز تیر را گذر کنم نگه کنه گل من سرشک غم به دامن برای من میفکن Thank you.
Alors cette voix magnifique, c'est celle de Susan Deim, mon cher Reza. Reza, c'est votre prénom, votre nom de famille, c'est Degati. Mara Bebous, qui a été mise dans un écrin magnifique, celui d'Archie Dazarine, qu'on a reçu récemment dans cette émission. Archie Dazarine, qui est un pianiste, qui fait partie, j'allais dire, des grands noms du jazz persan. Il se trouve qu'il est également médecin. Enfin, il est médecin en radiologie à l'hôpital Saint-Joseph, juste à côté. Vous avez choisi 5 morceaux. Je vous ai demandé de choisir 5 morceaux, Reza, parce que vous venez de sortir un livre de photos avec votre frère Manoucheur, donc Reza et Manoucheur Degati. Ça s'appelle « Iran, rêve et dérive 1978-1985 ». Donc, c'est un livre de 250 photos. Toutes n'ont pas été publiées, des photos qui sont totalement inédites. Et vous parlez en fait de la fin des Pahlavis, la fin du Shah d'Iran et des débuts de l'Ayatollah Khomeini. Avant de parler de votre livre, on va parler quand même de choix des chansons. Susan Deim, iranienne, qui était danseuse chez Béjar, qui s'est installée aux États-Unis. Donc elle vivait entre la Belgique et les États-Unis. Mara Bebous, qu'elle vient d'interpréter, une chanson que tous les Iraniens connaissent.
Absolument, oui.
Alors, vous l'avez choisi parce que c'était le titre Marabébous ou parce que c'était Susan Deim et que c'était Archie Dazarine qui lui aussi fait partie de la diaspora?
Il y a un peu de tout ça. Mais l'origine de cette chanson qui m'a aussi beaucoup bouleversé parce que c'est un peu équivalent de ce qu'en Italie on dit le Bella Ciao. Vous voyez, c'est un peu pour que les gens.
Bella Ciao qui était un hymne communiste.
Marabébous, c'était la chanson écrite par quelqu'un qui est condamné à mort dans les années 50, par le régime du Shah d'Iran, dans la prison d'Iran. Il a écrit cette chanson. Le chanteur qui avait chanté ça, l'original, il a chanté une seule chanson, qui est celle-là. Il n'a plus rien chanté, autre chose. Et c'est devenu la chanson, je dirais, le plus écoutée, le plus connue en Iran depuis des décennies. Mais surtout, et c'est là où ça me touche aussi beaucoup, parce que c'était aussi la chanson que dans la prison, tous les prisonniers, ils chantent. Dans les moments les plus durs, dans les moments les plus difficiles.
Reza, tout le monde, enfin, on connaît votre parcours de photojournaliste. Vous couvrez les événements les plus difficiles dans le monde, les populations dans la tourmente. Vous parlez de prison, c'est un sujet que vous maîtrisez, puisque vous-même avez goûté aux prisons du Shah d'Iran. Sous quel motif aviez-vous été arrêté? C'était dans les années 70.
Oui, très très jeune, j'ai compris l'impact et l'importance de la photographie comme un langage universel, comme pouvoir parler au monde pour expliquer ce qu'on voit et qu'on ne peut pas le dire avec les mots ou on n'a pas les moyens de le montrer dans la presse à l'époque qui était la presse complètement comme aujourd'hui sous le chapeau de gouvernement. Et j'ai commencé à photographier les scènes d'injustice sociale, de pauvreté, de ce que je voyais en tant que jeune garçon de 14, 15, 16, après plus tard en grandissant, toutes ces scènes. Et mon seul moyen de montrer ça au monde, c'était de placarder la nuit en cachette sur les murs de l'Université de Téhéran, autour de l'Université de Téhéran. C'était l'endroit le plus visité, le plus vu. Et ces photographies collées contre le mur, c'était les premières, quelque part, dans l'histoire. Ça fait, il y a plus de 40 ans que je faisais ça. C'était les premières photographies militantes de montrer injustice collée sur le mur. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui, beaucoup de gens qui collent les photos maintenant. Mais faire ça il y a 40 ans en Iran du Shah, et c'était un acte subversif. Et ce qui m'a fallu, arrestation et torture et 3 ans en prison de l'âge de 22 à 25 ans. Donc j'ai connu cette période du Shah d'Iran qui était une période de terreur, qui était une période de torture, de prison. Évidemment, comparé à ce qui se passe aujourd'hui en Iran, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout comparable. C'est la brutalité du régime du Shah et la brutalité de ce que depuis 40 ans, ça se passe en Iran. Mais c'est comme ça que j'ai connu la prison. Et donc, la chanson de Mara Bebous, il est énorme quand on entend ça, quand ça me rappelait tous ces moments des prisonniers ou beaucoup de gens qu'après on savait qu'ils vont être exécutés, qui chantaient ça. Des fois, on se réunissait. Évidemment, c'était interdit de chanter en prison. Mais je me souviens de se réunir plusieurs autour d'un ami, de quelqu'un qui allait être tué ou exécuté, et chanter ça. Mara Bebous, embrasse-moi en plus.
Le piano, donc Archie Dazarine et Suzanne Dehim qui étaient au chant. Archie Dazarine vous passe le bonjour. Il se souvient que c'est Rachel qui aime bien ce morceau.
Ah oui,
c'est ce qu'il m'a dit. Petite discussion rapide avant de vous recevoir. C'est vous qui faites la programmation de cette émission, Raisin. Vous avez choisi Nawal et les Femmes de la Lune. Et le morceau, c'est Musica.
Musica è musica, musica è una cupenda. Kula siku na jiviwa uniburudi shezi ungo. Kula siku na pambuwe hutsoka karibu name. Taradudi ye ninjia univavuzo kabili. O maisha yangu kamili hutsoka karibu nami. Kuzanunda watu zitendelea haizo. Baisheke sosiete yambatisha watangamia. Baisheke maisha yangu na weti nyangwe. Uni wangusa, uni venua, uni vara. Ti uregeti uvahara. Waheri wa daima karibu nirende bale ondo msiuso. Muzika wangu, muzika wangu, muzika wangu. Kula siku na jiviwa uniburudi shezi ungo. Kula siku na pambuwe hutsoka karibu nami. Taradudi ye ninjia univavuzo kabili. O maisha yangu kamili hutsoka karibu nami. Kuzanunda watu zitendelea haizo. Baisheke sosiete yambatisha watangamia. Baisheke maisha yangu na wezi nyangwe. Uniwagusa, univenua, univara. Ni uregeti ubara. Waheri wa daima. Karibu nirende bale ondo msiuso. I love you. Musika. Love you. Musika. I love you. Musika. Wawe. Musika. Musika woye.
Musica Oye dans la voix de Nawal, Nawal et les Femmes de la Lune. C'est un choix de Reza. Reza, je dis votre nom de famille, Degati. On vous appelle Reza parce que tout le monde de la photographie et du photojournalisme vous connaissent sous votre prénom qui est devenu une marque. Alors vous avez choisi Nawal. Alors Nawal, c'est pas l'Iran, c'est plutôt les Comores, Moroni. Vous connaissez avec Nawal? Vous avez travaillé ensemble, fait des photos pour elle ou c'est juste sa musique qui vous porte?
Non, c'est la musique et enfin, en réalité, Le lien entre pourquoi j'ai choisi ça, c'est que mon fils, qui a 26 ans maintenant, Delazat, après ses études, il a fait des stages à l'île de la Réunion et depuis le jeune âge, il avait beaucoup envie d'aller dans les Comores, dans les îles de Comores, pour écouter la musique de là-bas. Et il me parlait toujours de la musique Comores. Et finalement, il est allé, il a fait un documentaire sur la musique Comores et Mayotte. Quand il m'a montré ça, au début, je me disais, bon, bah, c'est un film sur la musique. Mais en réalité, j'étais très, très touché, honoré par voir ce qu'il faisait. C'était comme un cadeau qu'il m'a fait en disant, tu vois, tous les valeurs dont tu défends, l'universalité, la valeur des hommes, et ce que l'union entre les différentes cultures, c'est dans cette musique. Et c'est vrai qu'en écoutant la musique de Comores et Mayotte, où je me suis rendu compte combien cette musique, il y a, dans cette musique, il y a cette universalité, parce que c'est une musique qui est venue de partout du monde, enfin les gens qui sont là-bas. Et il y a une mélange incroyable de toutes les voix, de toutes les pensées. En regardant dans le film, je voyais combien Nawal, elle est aussi adepte de soufisme. Le soufisme, c'est quelque chose qui me parle aussi, que c'est aussi de cette universalité de la pensée, universalité de l'homme aussi. Donc, et évidemment, parce que je pense que montrer les voix de femmes, c'est important. Comme ça, ça me rappelle, c'est le projet que je mène dans le monde entier pour aider les femmes journalistes et autres. Et surtout la radio qu'on a créée en Afghanistan qui s'appelle La Voix de Femmes Afghans, qui est la voix de femmes ici à Comores, ça me parlait beaucoup. J'avais envie qu'on écoute ça.
Quand on parlait de l'Afghanistan, je ne peux pas m'empêcher de penser au commandant Massoud que vous avez photographié, avec qui vous étiez. Vous avez noué quand même des liens assez, assez serrés, assez profonds.
Amical, c'était un ami.
Et Aïna, la structure que vous avez montée,
ça continue encore, formation
de journalistes, de photojournalisme à Kaboul.
Pas seulement le photojournalisme, c'est tout. C'est-à-dire que c'est tout le métier de journalisme. Il y a les télévisions, il y a les vidéos, il y a les radios. Une des plus grandes sections que nous avions, c'était la radio, la voix de femmes afghans, former des femmes afghans pour qu'elles fassent leur radio eux-mêmes. Et aujourd'hui, en Afghanistan, c'est dans la région, si vous voulez, on comparait l'Iran et des pays Asie centrale, Pakistan et autres. Afghanistan, il a une média extraordinaire. Et ça, vraiment, c'est ce qu'ils ont appris dans l'association Aïna et les moyens qu'on avait mis sur place. Parce que je pense fortement que la démocratie ne peut pas passer par les avions de chasse et par les militaires. On ne peut pas emmener avec la guerre la démocratie dans un pays. Il faut avant tout les structures, infrastructures et donc la liberté d'expression.
Reza, vous êtes invité dans les musiques du monde parce que vous venez de sortir avec votre frère Manoucher Degati, Iran, rêve et dérive, 1978-1985. En fait, ça parle de la fin du règne du Shah d'Iran et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini. Alors deux choses, j'ai une photo sous les yeux parce que vous avez choisi les deux premiers titres. Ce sont des femmes qui chantent, Susan Deim avec Archie Dazarine au début, à l'instant Nawal. Et là, je vois une photo, je ne sais pas si c'est Manoucher ou si c'est vous qui l'avez prise, cette photo. On est en 79, Khomeini est arrivé, il y avait beaucoup d'espoir. Et puis, et je lis le texte, ça s'appelle « Les larmes de la désillusion ». Et on voit une femme en manteau, les cheveux au vent, enfin bien peignée, avec des lunettes foncées, qui fait une grimace, qui pleure. Ça s'appelle, oui, « Les larmes de la désillusion ». Et le texte dit « L'espoir suscité par cet élan populaire contestataire est vite déçu ». La chute du Shah a révélé des oppositions radicales au sein du peuple. Dans les manifestations, les tensions ont remplacé la bonhomie et l'insouciance. Les larmes ont chassé les sourires. Une époque est révolue, celle de la fin des privilèges pour certains et des libertés pour les femmes. Pensez beaucoup aux femmes, hein ? Double peine pour elles, quand même.
Les femmes en Iran, elles sont, comme vous dites, double peine. Non seulement comme tout le peuple iranien, il subit ce que le mullah y font, mais aussi parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont obligées de porter cette foulard ou voile islamique ou d'autres qui n'est pas d'ailleurs islamique, que c'est une invention totale, cette histoire. Eh bien oui, les femmes en Iran, elles sont sous le double peine. Je pense beaucoup aux femmes, je travaillais beaucoup. D'ailleurs, le texte du livre, c'est Rachel Begatti, oui, qui est écrivain et qu'on travaille ensemble. Et tant qu'on n'a pas changé l'attitude de l'humanité en général envers les femmes, et c'est ça que depuis 40 ans je vis ça dans toutes les guerres et conflits, et même ici, tant qu'on n'a pas encore arrivé à une forme de civilisation dans laquelle les femmes et les hommes, ils auront une égalité devant tout, le loi et devant tout, on ne risque pas d'atteindre ce mot qui est l'humanité. On est encore loin de ce qu'on peut dire que l'humanité ou des êtres humains, tant que déjà les femmes n'ont pas à atteindre dans le même niveau que les hommes. Et c'est pour ça que beaucoup des actions que je mène, c'est lié sur ça, parce que j'ai vu beaucoup de guerres, j'ai vu beaucoup de souffrances humaines, et que les guerres et les conflits, c'est une affaire d'hommes. Et les femmes sont des mères, c'est l'instinct maternel qui donne la vie. Et plus il y aura des femmes dans ce monde, de decision makers, dans le monde de médias, de communication, d'éducation, de culture, gouvernance et autres, on aura une vie plus en paix, je l'espère.
بی تو تنها به پای مینا ساغر به دستم هست من هستم بی قراری پیمان و پیمان شکستم مستم این عشق سرکش سوزان شاتش گم کردم شور جوانی در نیمه راه زن نهاده انسر غم
Sepide Raïs Sadat, comment vous prononcez raisin ?
En personne, Raïs Sadat.
C'est vous qui avez fait la programmation de cette émission, puisque vous sortez avec votre frère Manoucheur, Iran, Rêve et Dérive, 78-85. Ça fait 40 ans que la révolution islamique a eu lieu en Iran, avec l'arrivée en février 79 de l'ayatollah Khomeini. On va dire d'abord un mot sur Sepide, puis après on ira sur l'ayatollah. Enfin, c'est une manière de s'exprimer qui est un petit peu rapide, mais... Je sais que vous avez de l'humour, Reza, malgré tout ce que vous avez traversé dans votre vie et tout ce que vous avez vu. Raïs Sadat, quel est le titre qu'elle a chanté ?
Mastem Mastem.
Et qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une forme mystique d'un état d'extase. Qui Mastem Mastem, ça veut dire je suis ivre, ivre, mort, ivre, complètement ivre.
Avec du raisin ou Dieu ?
Avec les deux, enfin, quelque part, je dirais.
Célébration de la vie.
Célébration de la vie, voilà. C'est ça le mysticisme, le soufisme aussi, qui prend toujours tout ce qui est pour la célébration de la vie, mais il parle du vin, en réalité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran, c'est un des plus anciens pays du monde où on a eu le vin. Ça date de 7000 ans, ça veut dire 5000 ans avant Jésus-Christ, les premières trace du vin qu'on trouve en Iran. Mais plus que ça, Sepide, Raïs Sadat, elle représente quelque part toutes les femmes iraniennes qui souffrent et qu'elle s'est devenue la voix de ces femmes. C'est vraiment la diva du chant iranien aujourd'hui.
Le chant classique.
Le chant classique. Elle est aimée, écoutée par tous les Iraniens. Elle est adoulée par tous les Iraniens.
Elle vit en Italie.
Entre l'Italie, l'Allemagne maintenant, de ces jours-ci à Bonn.
D'accord. Elle est jeune, elle est née en 80 à Téhéran,
oui,
c'est juste pour dire, elle n'a même pas 40 ans.
Non, elle donne des concerts partout, mais surtout parce qu'en Iran, de la République, les femmes ne peuvent pas chanter, n'ont pas droit de chanter, on n'a pas droit de montrer, écouter ni une femme a droit de chanter. Donc tout ça, ça fait que Sepide, en plus qu'elle est une musicienne, une artiste extraordinaire, historique dans l'histoire de l'Iran, les femmes qui chantent, il n'y avait pas eu beaucoup. Elle fait partie de ces femmes dans l'histoire de musique iranienne. Mais surtout dans ces moments-là, où elle est devenue quelque part la voix des femmes opprimées. Elle montre la beauté et l'amour qui existe dans la voix et dans l'attitude des femmes.
Reza, vous avez quitté l'Iran en 1981, après avoir goûté aux joies des geôles du Shah d'Iran. Dans ce livre que vous avez publié avec votre frère Manoucheur, il y a une photo de l'ayatollah Khomeini qui se trouve dans une chambre avec un tapis, un lit, un matelas. Enfin, c'est assez sobre. Ce qui est glaçant, c'est le regard de l'ayatollah Khomeini. Je sais que c'est une de vos photos. Est-ce que vous pouvez la commenter ? Dans quelles circonstances vous avez pu photographier ce monsieur ? À quel moment ça se passe ?
Vous voyez, Khomeini, c'était une énigme au début, avant, quand il était ici à Paris, enfin à Neuflot-le-Château, assis sous son arbre de pommier, et qui promettait tout pour les Iraniens en disant « Regardez, moi je viendrai vous emmener la démocratie, vous emmener la liberté ». Vous n'avez plus à payer l'eau, l'électricité, le pétrole, tout va être gratuit pour tout le monde. Vous allez avoir tous les maisons gratuites. Les gens y croyaient. C'était une des populistes assez. Maintenant, on comprend un peu ce qui se passe en Brésil, le Trump et autres. Ce sont presque les apprentis devant Khomeini, tous ces gens-là, de ce qu'il fait. Mais il y avait un moment où, après la révolution, et que finalement. Tout était réussi pour lui et qu'il devait rentrer en Iran et que le Shah était parti et qu'il venait prendre le pouvoir. Il prenait une Air France pour venir avec tous les journalistes et autres. À côté de lui, il y a un moment où le pilote il dit que nous rentrons dans l'espace aérien iranien. Et le journaliste France 2, Antenne 2 à l'époque, qui était avec lui, qui pose la question « Monsieur, on rentre dans l'espace iranien, quelle est votre émotion maintenant ?» Lui regarde, un regard terrible, exactement comme celui-là, il dit rien. Ce rien, qui était aussi prononcé très fort, ça fait un froid dans le monde, dans beaucoup des Iraniens qui entendaient ça, parce qu'on croyait qu'il va quand même être ému de ce qui s'est passé, de toutes ces années d'exil, retour en Iran et autres. Et depuis ce moment, j'ai commencé à avoir énormément de doutes sur la personne et ce qu'il présentait. Et en tant que photographe, moi, je ne peux quelque part juger des gens que, ou les voir ou connaître, même pas juger, connaître, qui sont, tant que je ne suis pas devant eux, avec mon appareil, et que je ne regarde pas dans leurs yeux et que je ne photographie pas. Et donc, depuis ce moment, j'avais envie de me trouver devant lui, malgré les difficultés, malgré tous les obstacles qu'il y avait. Mais j'étais un photographe professionnel, un journaliste professionnel avec toutes les accréditations à l'époque. Ça m'a pris des mois de démarche, finalement, d'être accepté, de me trouver quelques secondes, même minutes, avec lui, seul, évidemment, devant la porte, il y avait un garde-corps, mais me trouver seul avec lui dans cette pièce. J'avais envie de voir dans son regard quel est l'homme qui a promis tout avec une telle voix en disant « je vais vous emmener toute la beauté » mais qu'il n'y a aucune émotion. Et c'est cette photo, et pendant ce moment de cette photo, j'ai compris ce qu'il allait passer dans ces 40 ans qu'on vivait, qui était un mentor avant tout. J'ai senti ce mensonge total dans son regard envers ce qu'il est, mais surtout brutalité et criminalité qui peut aller jusqu'au bout de ce qu'il a fait. À peine un an après cette photo...
Qui a été faite en 80.
Voilà, et à peine un an après, il a ordonné tuer des milliers de prisonniers politiques qui avaient fini leur peine déjà illégale, parce que le prisonnier politique à l'époque, c'est illégal, tout ce qu'il faisait. Mais malgré ça, il a ordonné qu'on tue tout le monde, hommes, femmes. Il avait ordonné de violer des femmes, des filles prisonniers qui devaient être exécutés parce qu'il disait, en islam, on ne peut pas exécuter une vierge. Donc, violez-les avant de les exécuter. C'était ça le fond de cet homme et ce qu'il a emmené. Et ça, c'est dans cette photo que j'avais envie d'expliquer. L'interaction que j'ai eue avec lui, c'était la suivante. Il me regarde, je le photographie, comme si elle sentait aussi que je n'étais pas avec lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Il dit, je suis fatigué. J'ai dit, monsieur, mais c'est moi qui travaillais. Et c'est vous qui êtes fatigué. Et là, ça ne lui a pas plu du tout. Il a tourné la tête et son garde-corps, il m'a sorti de pièce.
Vous vous rendez compte, vous lui avez répondu, pour lui, c'est une impertinence totale.
C'était presque jamais arrivé.
Oui, parce qu'à la place où il était, c'était déjà un demi-dieu. Ouais. Un dieu noir, mais
ouais,
un dieu...
Oui, ouais, complètement.
L'âme très très noire. Vous avez fait combien de clichés ?
J'ai dû en faire peut-être deux ou trois. Un en couleur et trois en noir et blanc.
Et pour vous, une bonne photo, qu'est-ce que c'est quand vous photographiez un homme comme ça ?
En réalité, quand je photographie les gens... Une grande partie de mon travail, c'est spontané. Comme le portrait de Massoud, par exemple, qui est tellement connu. Tout ça, c'est des photographies spontanées que je fais, comme celui-là. Donc, il n'y a pas de mise en scène. Je ne demande pas des gens de changer la place, de mettre d'un côté. Mais il y a un moment de vérité, tout le temps, qui passe. Parce que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et moi, j'essaye d'arriver à un moment où sa fenêtre s'ouvre, où on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Et c'est ça pour moi, ce moment dans les portraits.
Je vous propose d'écouter un morceau que vous avez encore choisi, puisque c'est vous qui faites la programmation, Reza. Et là, on va sur une reprise de Dalida, de cet extrait de l'album dédié à toi. Le titre, c'est Halwaya Baladi. C'est interprété par Lina Slaby.
الوداع غنوة حلوة وغنوتي حلوة يا بلدي فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عني يا بلدي وكل ما بغني بفكر فيه قول يا حبيب انت سايبني ورايح فين اجمل لحن ده حنغني احنا الاتنين يا محلى كلمة
DJ Reza est toujours aux commandes. Enfin, vous êtes le MC de cette émission, Reza. Vous êtes invité pour la sortie du livre Iran rêve et dérive. On a le sourire en parlant, mais en fait, ça parle d'une période tout à fait dramatique de l'histoire iranienne entre 78 et 85. On va d'abord parler du morceau qu'on vient d'écouter. Alors, je ne connaissais pas Lina Slaby. Vous pouvez nous la présenter parce que sa reprise de Dalida est délicieuse.
Au fond, Lina aussi, j'ai découvert récemment parce que j'adore toutes les musiques du monde, et dès que je suis dans un pays, une des premières choses que je fais, j'essaie de trouver deux parties, c'est les musiciens classiques de chaque pays et aussi les modernes, les pop. Donc c'est deux. C'est pour ça que je connais beaucoup des musiciens des rap ou plein d'autres aussi, tout ce qui est nouveau et aussi des anciens. Et moi je connaissais toutes les grandes classiques de musique arabe, comme Asmahan, comme Firouz, comme Am Kulthoum, et j'écoutais beaucoup.
Alors Asmahan, c'est Syrie,
ah oui,
Firouz c'est le Liban. Et Oum, ouais, c'est le monde, c'est la galaxie, c'est l'Égypte aussi.
Donc, et dans les nouveaux, c'est elle qui m'a attiré, parce qu'elle représente, elle a des origines libanaises, palestiniennes, elle chante français, elle reprend des morceaux des différentes de Dalida ou d'autres aussi, donc elle chante dans d'autres langues aussi. Mais surtout, sa jeunesse et sa fraîcheur emmenaient de plusieurs cultures ensemble qui m'avaient beaucoup touché. Et ce morceau aussi qui dit « ma chère patrie », ça m'avait beaucoup plu aussi.
Le thème de l'exil, c'est très important. Est-ce que vous êtes retourné en Iran depuis 81 ?
Non, je ne suis pas retourné proprement dire en Iran, mais
tout autour.
Oui, absolument, j'ai tourné. Mais ce qui est important, c'est que finalement, l'Iran, c'est pas où, comme vous n'allez jamais être en exil, exilé de France, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que son pays, c'est une culture avant tout. C'est une civilisation, ce qu'il a dans lui, ce que le nombre de pays. Et ben, l'Iran, c'est une culture très ancienne, c'est une culture très riche, ancienne, millénaire, et que je le trouve aussi bien dans le désert de Xinjiang, de Xinjiang, de Chine, les traces de cet empire qui était empire perse, mais ce n'est pas sous le nom de l'empire, c'est plutôt le nom de culture que je le découvre. Ou en Afghanistan, ou au Pakistan, en Inde, en Turquie, au Liban, en Égypte, et donc chaque fois que je vais là, je retrouve quelque part ce morceau de culture ancienne persane et aussi ce qui me permet de comprendre, en connaissant les autres cultures, combien cette culture est aussi imprégnée des autres cultures, la culture perse. Donc l'exil, ça peut devenir une vraie force, c'est ce que j'ai essayé de le faire, une force de connaissance, une force de aussi être humble, de se dire que oui, il y a plein d'autres cultures, il y a plein d'autres langues dans le monde, il y a plein d'autres personnalités extraordinaires dans le monde que je découvre chaque jour et que ces voyages, avec 40 ans de voyager dans centaines de pays du monde, ça me donne quelque part la possibilité d'aller au-delà de l'exil et comprendre le monde, la Terre en globalité aussi.
Votre livre s'ouvre en photographie, puisque c'est un recueil de 250 photos qui couvre donc fin 70, début 80 en Iran, avant et après la révolution islamique, ça fait 40 ans. Ça s'ouvre sur une voiture décapotable, on dirait des jeunes Kennedy, qui ne sont en fait des acteurs avec de belles lunettes noires. C'est l'Iran avant. Et puis on voit des jeunes femmes qui sont sur une terrasse, qui visiblement ont de l'argent, une vie agréable. Et votre livre se termine par une photo qui se passe au cimetière du Père Lachaise. Et là, c'est véritablement le titre, l'exil. Voilà, on est passé de l'insouciance, ou une forme d'insouciance, même si à cette époque, sous le Shah d'Iran, c'était pas tellement simple d'être iranien. Et on finit au Père Lachaise, c'est le premier enterrement d'un homme qui a quitté l'Iran pour les raisons que l'on connaît, pour des raisons politiques, et qui va se faire enterrer dans une autre terre. Et ça, c'est le premier coup dur pour la diaspora.
Oui, c'était enterrement de grandes écrivaines dramaturges iraniennes, Ghulam Hossein Saedi, ou qui signait en Gohar et Mourad, et que j'ai connu bien ici quand il était venu en exil. Comme on était peu nombreux au début de la révolution de se réunir, on se réunissait constamment. Et à un moment, on sentait que l'exil, ça lui mangeait, rongeait de l'intérieur. Et il est mort. C'était le premier mort qu'on a connu, nous, les exilés. Non pas. C'était un médecin, lui. Vous voyez, c'était incroyable. D'un seul coup, toute son structure à l'intérieur est jeune. À peine 50 ans, à peine.
Rongé par la tristesse.
Oui, oui, oui. Et ce moment, dans Père Lachaise, où j'ai fait cette photo, certes, c'était la tristesse de perdre un ami, et surtout un ami qui était un très grand écrivain, intellectuel, mais c'était tous ces Iraniens qui l'accompagnaient, qui étaient aussi en exil, sous cette pluie froide de mois de novembre, et sous cette parapluie. Il y avait quelque chose d'étrange dans ces moments. Et je n'arrivais pas à comprendre l'étrangeté, en plus de ce qui était la mort de cet ami. Et c'est d'un seul coup que je me suis rendu compte que c'est la première mort que les exilés iraniens y vont enterrer. Et c'était ça qui m'avait beaucoup touché, beaucoup, en disant, l'exil, c'est pas seulement être loin, mais c'est peut-être être loin jusqu'à la fin de sa vie et aussi la fin de ce moment.
Reza, pour la fin de cette émission, vous avez choisi, j'étais un peu surprise, vous avez choisi Mathieu Chédid, Toumani Diabaté, Sidigui Diabaté, c'était l'album L'âme au Mali qui est sorti il y a au moins 2 ans. Alors, Reza et l'Afrique, quand Johnny Clegg, qu'on l'appelait le Zoulou Blanc, est décédé, évidemment, on est allé rechercher des iconographies et j'ai vu cette photo que vous aviez faite de lui. Il est accroupi, je ne sais pas s'ils font une danse en ligne, la danse des canards, je ne sais pas trop quoi. Il y a plein, c'est tout noir et puis à un moment, il y a un point blanc. On se dit, mais c'est quoi ça? Vous vous souvenez de cette photo?
Bien sûr.
Vous l'avez faite quand?
Oui, en août 1985.
En Afrique du Sud.
Afrique du Sud, c'était ma première rencontre avec Johnny, on est devenus très amis. Mais cette amitié, c'était quelque chose de fort, parce que, comme je disais, quand je vais dans un pays, les musiciens, c'est une des groupes des gens que j'essaie de connaître. Et parce que c'est par eux qu'il passe beaucoup de choses. Les artistes en général, les musiciens d'autres. Mali, c'est un peu la même chose pour moi.
Quel est votre rapport avec le Mali?
Dans mes projets humanitaires, enfin, que je fais pour mon association Les Ateliers Reza, qui est formation des jeunes réfugiés dans les camps de réfugiés ou dans les banlieues en France ou banlieues en Italie ou à Buenos Aires, former des jeunes à la photographie pour qu'ils représentent leur communauté. J'étais à Mali il y a 2 ans, pour former une vingtaine de jeunes qui étaient des déplacés de guerre du Nord à la photographie et ensuite exposer leur travail à Mali. Et j'ai connu des musiciens, des hommes et des femmes de culture extraordinaire. Et j'ai eu une vraie, je dirais, affection envers ce peuple malien. M. Chadid, je le connais à travers Barmak Akram, qui est un ami afghan, qui est un artiste afghan, qui est un poète, qui est cinéaste, qui a fait des films connus. Il est connu comme cinéaste afghan. Mais Surtout, il est poète, il a fait des poèmes pour M. Chédid aussi.
Mathieu Chédid,
voilà.
Petit-fils d'André Chédid.
Ah oui.
Reza, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Parce qu'on arrive en fin d'année, enfin avec le calendrier romain, évidemment. C'est chrétien. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?
Que...
Un appareil photo tout neuf ? Mais non.
Non.
Il est beau, lui.
Moi, c'est ce que j'aimerais, c'est la fin de guerre. Est-ce que vous pouvez me permettre ? Est-ce que vous pouvez me promettre ça, la fin des guerres?
C'est ce vous voulez devenir Miss France, en fait. Allez, avouez-le. La fin des guerres, quand on sera mort, oui je pense. Quand
arriver.
On sera de purs esprits.
Oui, il y aura dans quelques milliers d'années, ça arrivera. Mais il faut le faire dès maintenant.
Merci Reza. Je rappelle que votre livre que vous avez fait avec votre frère qui, comme vous, est photo-reporter, Iran, rêve et dérive, 1978-1985, avec des textes de Rachel Degati, qui est votre épouse. Merci infiniment d'être passé dans cette émission et d'avoir fait la programmation. On se quitte donc avec Mathieu Chédid, Toumani Diabaté et Sidiki Diabaté. C'est sur l'album La Momali. Le titre choisi, c'est Mani Toumani.
S'apaiser la vie illimitée.